Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rendez-vous de la Réaction, dans lequel nous allons parler du jugement qui a condamné Nicolas Sarkozy, qui l'a condamné selon moi sans preuve et sur la base d'une erreur de droit. Nous allons donc parler du dossier libyen et ce qui va être intéressant, c'est que ce dossier nous permet de rendre compte, de bien comprendre l'ampleur de l'influence de la finance musulmane sur la vie politique française et aussi sur le monde des affaires. Enfin, sur le monde des affaires, ça se voit beaucoup depuis la victoire de la Ligue des Champions du PSG. Et ça se voyait même un petit peu. Voilà. Donc, avant de commencer ce dossier épineux, c'est le moins qu'on puisse dire, quelques petites annonces habituelles. Donc, comme vous le savez, nous faisons des annonces pour réagréger la qualité françoise. Nicolas a cherché dans mon bouquin qu'il a condamné selon moi sans preuve
de la librairie française
et 202 rue des Affaires. Enfin, sur le... Vous pouvez aussi aller sur le site de nos amis du collectif Saint-Robert Bellarmin, qui, nombre des affaires actuellement, hein, le CSRB actuellement, là, a fait vraiment, a connu un succès absolument retentissant avec la publication du missel de Don Lefebvre, puisqu'ils en ont déjà vendu 400 en quelques semaines, sans d'ailleurs qu'il y ait un grand relais spécifique sur les réseaux sociaux. Donc chapeau à eux, félicitons-les. Il en reste encore, hein, donc vous pouvez y aller, même si je pense qu'il y aura encore de nouvelles réimpressions. Mais voilà, donc les vrais sont appelés à avoir un bon missel. Ensuite, chers amis, les vrais, vous savez que les vrais peuvent aller sur le site des éditions Les Stockades. On y trouve notamment mon dernier bouquin que vous voyez ici, Le Roi, le Dauphin et le Connétable, qui est la véritable histoire de Vichy et qui nous montre comment Vichy a préparé le retour de la France dans la guerre. Guerre qui a été relancée, enfin la France a été relancée dans la guerre contre l'Axe le 13 novembre 1942. J'ai développé ça dans les éditions condamnées. Vous pouvez aller voir. Et nous avons réédité aussi
du Rendez-vous de la Réaction,
cet ouvrage qui est peut-être le plus important du jugement.
Quoique
ils sont
rendus vendus, parce que ça n'intéresse pas le monde,
le connétable, qu'il a l'équivoque vaincu par le magistère. Le 13 novembre.
Et dans cet ouvrage, je démontre que le rite.
Je suis pas le premier à l'avoir fait.
Ouvrage qui est.
Je démontre que le rite de consécration épiscopale inventé par Montini Paul VI dans son document Pontificalis Romani est invalide. Pourquoi? Parce que, contrairement à ce que préconise Pie XII dans Sacramentum Ordinis, le rite de consécration épiscopale inventé par Montini Paul VI ne signifie pas l'épiscopat. Voilà. Et je réfute, bien entendu, les contre-argumentations qui sont faites par nos contradicteurs modernistes et tradis. C'est un sujet qui n'intéresse pas grand monde, pourtant c'est absolument central. Absolument central. Voilà, les éditions Les Stockades vont avoir du pain sur la planche, puisque je vais sortir un ouvrage de défense d'un grand théologien français. Je vais sortir un livre, enfin, c'est pas pour demain matin, mais je pense que ça sera pour novembre-décembre, sur le scandale de Panama, sujet qui ne vous intéresse pas a priori, mais qui est absolument passionnant, et qui nous permet de beaucoup parler et de comprendre le cas d'Edouard Drumont, puisque c'était une figure centrale. Puisqu'il a dénoncé à l'époque, avec son journal, les chécards, comme on disait. Voilà. Et puis aussi, il y aura un autre bouquin sur Dreyfus. Oui, il y aura du neuf sur Dreyfus, parce que figurez-vous, la Providence m'a mis entre les mains des pièces d'archives inédites. Et ça va être passionnant, vous verrez. Voilà. Donc, nous n'avons pas fini de combattre. Ensuite, chers amis, appelons déjà pour la radio, puisqu'on ne dit pas d'amour et d'eau fraîche. Donc, Pierre de Tirmont, quelles sont les meilleures façons pour faire des dons, les plus faciles techniquement parlant?
Il faut aller sur Tipeee, et il y a un lien Tipeee dans la description de la vidéo, tout en bas.
Voilà, donc les vrais peuvent aller faire des dons. Par ailleurs, comme vous le savez, nous faisons des demandes de dons pour des écoles. Et notamment pour Notre-Dame Auxiliatrice qui est à Béton, dans la commune de Béton en Bretagne. Alors, effectivement, je vais vous envoyer un lien et ça serait sympa de le mettre en description puisque c'est un lien pour faire des dons réguliers, vous voyez, des petits dons réguliers. Donc si vous pouviez le mettre en description, ça serait sympa. Et appel aux dons aussi pour l'école des Trois Saint-Jean en Belgique. Voilà. Vous pouvez aussi faire un don pour nos amis du monastère de l'œuvre de l'Étoile. Tous les liens sont en description. Voilà, si vous en avez sous le coude, chers amis, c'est pour le bon Dieu, n'hésitez pas. Et le bon Dieu nous enseigne, je crois, dans les Écritures, que le moindre verre d'eau offert nous vaudra une récompense. Donc, quid de ce qu'on offre à l'Église et pour les âmes. Voilà, donc vous pouvez aussi faire preuve de curiosité en allant sur la brocante, la petite brocante de Saint-Joseph, sur laquelle vous trouvez des biens divers et variés, des objets divers et variés, si je puis actionner ainsi, religieux et non religieux. Voilà. Donc c'est aussi une façon de recatholiciser, de refranciser son quotidien. Voilà, donc j'espère que j'oublie rien. Je pense que j'oublie, parce que j'oublie toujours, mais parce que je fais un peu les annonces à l'arrache, si je puis dire que ça ainsi. Bon, écoutez, ça me reviendra au pire. Voilà, donc, avant de nous lancer dans le gros dossier du jour, chers amis, je voudrais rebondir sur deux, trois choses. La dissidence nous explique, depuis près de 20 ans, que la France est tenue par, citation, le tout-puissant lobby sioniste. On peut effectivement relever que, à partir de Sarkozy, la politique étrangère de la France s'est davantage orientée dans le sens des intérêts d'Israël, alors qu'avant elle était plutôt dite pro-arabe. Pourtant, il n'y avait pas de toute puissance du lobby arabe sur la France. Bref. On se souvient aussi de Manuel Valls et sa fameuse phrase « quand même ». Et dans cette saillie, il disait qu'il était lié de manière éternelle à un pays qui n'est pas le sien, ce qui est quand même gênant quand on prétend vouloir devenir président de la République. Bon. Ceci étant posé, Emmanuel Macron, a fait voler tout cela en éclats. Il a mis un terme à tout cela, puisque à la fureur d'Israël et de ses soutiens en France, il a reconnu un État palestinien. Donc il a mis un terme au mythe de la toute-puissance du lobby sioniste véhiculé par la dissidence. Influence il y avait sans doute, toute-puissance certainement pas. Netanyahou, qui s'est autoproclamé le nouveau Dreyfus, sikh, a fait savoir qu'il y aurait des représailles contre la France et contre d'ailleurs aussi les autres États qui reconnaîtraient la Palestine. Macron a répondu à Netanyahou que si la France était attaquée, elle répliquerait. Donc Macron et la Ve République tiennent tête et défient Israël. En revanche, il y a un pays de la Méditerranée devant lequel la Ve République s'aplatit. Tiens, est-ce que vous pouvez me mettre, si c'est possible, le tweet dont je vous ai parlé? Ce pays, c'est lequel, à votre avis, chers amis? Vous me voyez venir. Ce pays, c'est l'Algérie. Sur son compte Twitter, l'ambassade de France en Algérie se vante d'avoir augmenté pour l'année scolaire à venir le nombre de visas délivré. Donc l'ambassade se vante d'avoir augmenté de 1000 visas étudiants, le nombre total donc de visas délivrés, ce qui fait arriver à peu près à 8500. Donc il va y avoir dans l'année qui arrive 8500 étudiants algériens de plus en France. Donc l'Algérie ces derniers temps, par son gouvernement en tout cas, passe son temps à nous insulter, à nous dénigrer, à nous mettre des bâtons dans les roues, à s'opposer aux intérêts de la France. Que fait la Ve République? Elle lui accorde toujours plus de privilèges. C'est invraisemblable. Invraisemblable. Je vous rassure tout de suite, il n'y a pas de toute puissance du lobby algérien en France. Et je vous rassure tout de suite, lorsque une volonté politique voudra que ce cirque s'arrête, ça s'arrêtera à la seconde. Ceci étant posé, j'invite les personnes structurées par le logiciel de la dissidence à se rapprocher du réel. Et rassurez-vous, il n'y a pas de lobby algérien tout puissant. Ensuite, bonne nouvelle, chers amis, il semble que la fraternité Saint-Pédis, via un de ses prêtres, l'abbé Frédéric Veil, se lance dans une série de vidéos pour expliquer sa position. Ce qui mettra de la clarté, puisque à la fraternité Saint-Pédis, vous avez des quasi-cédévacantistes et vous avez des quasi-conciliaires, des quasi-modernistes. Donc là, ça va apporter de la clarté, on va comprendre ce qu'est la position de la fraternité Saint-Pédis. Dans une première vidéo, M. l'abbé Frédéric Veil explique que la fraternité Saint-Pédis n'a jamais été excommuniée de l'église de Wojtyla Jean-Paul II. Il nous explique donc que la fraternité Saint-Pédis fait partie de la fausse église à la tête de laquelle se trouvait Wojtyla Jean-Paul II, et à la tête de laquelle se trouve aujourd'hui le faux pape Prévôt. Il nous explique que la fraternité Saint-Pédis fait bel et bien partie de cette fausse église qui bénit les couples homosexuels et qui, ex cathedra, contrairement à ce que nous racontent les tradis, professe le modernisme. Si ce que vous dites est exact, monsieur l'abbé Frédéric Veil, il n'y a pas de quoi en être fier, très franchement. Moi, je pense qu'il vaut mieux ne pas faire partie de cette secte. Voilà, mais c'est peut-être parce que je suis cédévacantiste que je dis ça. Bref, pourquoi l'abbé Frédéric Veil fait-il cette vidéo? Parce qu'il y a des tiraillements actuellement dans la fraternité Saint-Pédis, le district de France et l'abbé Pagliarani veulent des sacres sans mandat. Monseigneur Felet et les autres districts du monde, eux, sont opposés à cela. Ils ne veulent pas se faire excommunier par les modernistes. Donc, le district de France est en train de préparer les esprits à d'éventuelles, entre guillemets, excommunications, parce que, bien entendu, les modernistes n'ont aucune autorité pour excommunier. Et je rappelle que lorsque Monseigneur Lefebvre s'était fait, entre guillemets, excommunier par la secte moderniste, il en avait rigolé, en disant « il est tout à fait normal que les personnes excommuniées par l'Église m'excommunient ». Mais c'est intéressant, c'est que la fraternité d'aujourd'hui, elle n'en rigole pas, et elle ne veut pas être excommuniée par les modernistes. Je pense que Mgr Lefebvre a été excommunié des cônes depuis bien longtemps. Voilà. Mais en tout cas, rassurez-vous, chers fidèles de la fraternité Saint-Pédis, vous n'êtes pas cédévacantiste, donc vous appartenez à l'Église qui bénit les couples homosexuels. Je tiens ensuite à dire quelques mots au sujet d'une vidéo que vous trouverez sur la chaîne YouTube de L'Homme Nouveau. Il s'agit d'une émission qui s'appelle Le Club des Hommes en Noir. Le concept est simple, il s'agit de traiter de l'actualité spirituelle et d'entendre des clercs modernistes et tradis, à ne pas confondre avec catholiques, au sujet donc justement de cette actualité. Bon. Une de leurs émissions est consacrée à l'infaillibilité pontificale. Et dans cette émission, parmi les invités, on retrouve M. l'abbé Claude Barthes. L'abbé Barthes a été cédévacantiste pendant près de 30 ans, avant de rejoindre, hélas, la secte moderniste. Ça serait d'ailleurs intéressant qu'un jour il nous explique les raisons théologiques qui l'ont convaincu de la catholicité du modernisme. Je serais très heureux un jour, M. l'abbé Barthes, que vous évoquiez cela publiquement. Mais passons. Je reconnais que dans cette émission, l'abbé Barthes a tenté de défendre, jusqu'à une certaine limite hélas, le dogme de l'infaillibilité pontificale. D'abord, il a rappelé, contrairement à la légende lefébriste, que l'infaillibilité n'est pas engagée une fois ou deux par siècle. Il a rappelé qu'à chaque fois que l'Église enseigne en matière de foi et de mœurs à l'Église universelle avec une volonté d'obliger les fidèles, eh bien le pape est infaillible et l'Église est infaillible. Donc, vérité importante. Il a rappelé que les canonisations sont infaillibles. Je rappelle que dans nos polémiques récentes, dans nos controverses récentes, le père Horowitz, champion d'anti-cédévacantisme, les capucins de Morgon, champion de l'anti-cédévacantisme, et Athanasius Schneider, champion de l'anti-cédévacantisme, ont tous nié l'infaillibilité des canonisations. Alors que Pie XI, dans au moins trois canonisations, dit mot pour mot que les canonisations sont des définitions infaillibles du magistère extraordinaire de l'Église. Bref. L'abbé Barthes a également rappelé l'infaillibilité du magistère ordinaire universel de l'Église. Et, encore plus fort, il a rappelé, en citant Humani Generis de Pie XII, l'infaillibilité du magistère ordinaire pontifical, du pape seul. C'est très intéressant, pourquoi ? On se souvient que lorsque j'ai débattu contre un clerc de la fraternité Saint-Pierre et contre Mathieu Lavagna, où ils étaient donc de contre un, mais passons, ça n'a aucune importance, Mathieu Lavagna avait nié face caméra l'infaillibilité du magistère ordinaire de l'Église. Et il l'avait fait en citant des théologiens, prière de ne pas rire, qui, eux, défendaient l'infaillibilité du magistère ordinaire de l'Église. C'était une fraude totale. Mais semble-t-il, cela avait satisfait son public. Il ne manquait à l'abbé Barthes, chers amis, que de rappeler l'infaillibilité de la discipline de l'Église. Mais ça, il ne pouvait pas le faire, parce que sinon, il serait obligé d'approuver la pseudomesse Paul VI et la bénédiction des couples homosexuels. Puisque ça relève de la discipline de l'Église officiellement. Ceci étant, l'abbé Barthes va plus loin quand même sur un point, puisqu'il cite à Maurice Laetitia de Bergoglio, et il dit que théoriquement, ce document devrait être infaillible en matière de foi et de mœurs. Mais il relève qu'il y a des hérésies en matière de morale, puisqu'on dit que des personnes qui vivent en concubinage ne sont pas en état de péché mortel. Bon. Donc là, au lieu de faire le constat de la vacance du siège, que fait l'abbé Barthes ? Il recule, et il nous dit avec l'abbé de Tannouarn, qui est aussi un invité, donc l'abbé de Tannouarn, lui, vient de la fraternité Saint-Pédis, mais il l'a quitté pour intégrer l'Institut du Bon Pastis. Donc, l'abbé de Tannouarn et l'abbé Barthes nous disent « Ces hérésies ne sont pas prononcées dans le cadre du magistère de l'Église, infaillible, mais dans le cadre d'un autre magistère, qui s'appelle le magistère authentique, qui n'est pas infaillible, et que les fidèles n'ont pas, et auxquels les fidèles n'ont aucune obligation d'adhérer. » Donc, ils nous disent qu'à côté du magistère de l'Église infaillible, il y a un magistère de l'Église, où l'Église peut enseigner le faux en matière de foi et de mœurs, et l'Église et les fidèles modernistes ne sont pas obligés d'y adhérer. Question, chers amis, tout cela est-il exact ? Existe-t-il un magistère qui, selon les intéressés et selon Vatican II, Lumen Gentium, s'appelle le magistère authentique, qui n'est pas infaillible en matière de foi et de mœurs ? Est-ce que c'est vrai à votre avis ? Vous me voyez venir. On va demander son avis à Léon XIII. Pierre Thiron, est-ce que vous pouvez mettre, s'il vous plaît, la pièce numéro 1, je vous prie. Merci, c'est gentil. Nous allons citer l'encyclique de Léon XIII, qui est absolument lumineuse et que je vous invite à lire intégralement, chers amis, qui s'appelle « Satis Cognitum ». Que nous dit Léon XIII au sujet du magistère authentique ? Va-t-il nous dire que c'est le magistère de l'Église ou va-t-il nous dire que c'est un magistère à côté du magistère qui n'est pas infaillible et auquel les fidèles n'ont aucune obligation d'adhésion ? Citation. Jésus-Christ a institué dans l'Église un magistère vivant authentique. Donc Léon XIII nous parle du magistère authentique. Et de plus perpétuel. Ce magistère authentique, citation, donc le Christ l'a investi de sa propre autorité. Donc question, chers amis, est-ce qu'un magistère revêtu de l'autorité du Christ n'est pas infaillible ? Est-ce que quelque chose qui est revêtu de l'autorité du Christ peut, comme nous le dit l'abbé de Tannouarn et l'abbé Barthes, enseigner le faux en matière de foi et de mœurs ? Restons sérieux, bien sûr que non. Poursuivons. Donc, magistère qu'il a investi de sa propre autorité, revêtu de l'esprit de vérité, confirmé par des miracles, et il a voulu et très sévèrement ordonné, écoutez bien ce qui suit, que les enseignements doctrinaux de ce magistère fussent reçus comme les siens propres. Que les enseignements doctrinaux de ce magistère furent reçus comme les siens propres. Donc, que nous dit Léon XIII ? Enseignement du magistère authentique égale enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que nous disent l'abbé Barthes et l'abbé de Tannouarn et Vatican II ? Magistère authentique égale aucune infaillibilité en matière de foi et de mœurs, aucune obligation d'adhérer. On voit bien que là, on ne parle pas de la même religion. Léon XIII poursuit. Toutes les fois que la parole de ce magistère déclare que telle ou telle vérité fait partie de l'ensemble de la doctrine divinement révélée, chacun doit croire avec certitude que cela est vrai. Chacun doit croire avec certitude que cela est vrai. Donc, que nous dit Léon XIII ? Il nous dit, vous avez l'obligation d'adhérer au magistère authentique. L'abbé Barthes, l'abbé de Tannouarn et Vatican II nous disent, pas d'obligation d'adhérer au magistère authentique. Léon XIII vous dit, obligation d'adhérer au seul et unique magistère de l'Église, qui est le magistère authentique. Et il poursuit ailleurs, dans Satis Cognitum, mais il nous dit que les pères de l'Église ont toujours regardé comme exclus de la communion catholique et hors de l'Église quiconque se sépare le moins du monde de la doctrine enseignée par le magistère authentique. Donc l'abbé Barthes et l'abbé Tannouarn vous disent, chers amis, nous pouvons ne pas adhérer à Maurice Laetitia qui est du magistère authentique et aux autres hérésies balancées à gauche à droite par les pseudo-papes modernistes qui relèvent toutes du magistère authentique. Nous pouvons ne pas y adhérer. Les pères de l'Église et le magistère infaillible, par la bouche de Léon XIII, nous disent « Si vous n'adhérez pas au magistère authentique, vous ne faites pas partie de l'Église. » Donc, question, chers amis, répondons à la question posée. Existe-t-il un magistère authentique non infaillible à côté du magistère de l'Église ? Ou le magistère authentique est simplement une autre appellation du magistère de l'Église ? La réponse nous est donnée par Léon XIII, le magistère authentique est simplement une autre appellation du magistère de l'Église. Et il n'existe pas de magistère de second ordre qui ne serait pas infaillible. Et c'est normal, chers amis, pourquoi ? Parce que s'il existait un magistère non infaillible, ça voudrait dire que l'Église peut enseigner le faux en matière de foi et de mœurs. Et donc ça veut dire qu'elle pourrait faire perdre la foi. Ça pourrait dire qu'elle serait un moyen de perdition. C'est contraire à l'indéfectibilité de l'Église. L'Église ne peut pas damner les âmes, ne peut pas tuer les âmes. C'est pas possible. Elle ne peut pas tuer la foi. Et pourtant, c'est ce que nous enseignent les tradis. Moralité, chers amis. Quel est le rôle des tradis ? Il est simple. C'est de dissimuler l'imposture moderniste. En vous faisant croire que toutes ces hérésies et tous ces actes d'apostasie émanant de la secte moderniste sont compatibles avec la constitution divine de l'Église. C'est abominable. Les tradis donnent un brevet de pseudo-catholicité au modernisme. Pourquoi ? Pour que vous ne fassiez pas le constat de la vacance du siège. Techniquement, dans son acception la plus péjorative, ça s'appelle de la collaboration. Collaboration avec quoi ? Avec qui ? Avec les modernistes, qui, selon la bouche de Saint Pie X dans Pascendi, sont les pires ennemis de l'Église. Messieurs les tradis, je ne vous félicite pas. Voilà. Et on en profite pour rappeler, chers amis, que le sens de la vie, c'est de vivre et mourir en état de grâce, d'avoir en soi la grâce sanctifiante, la participation en soi de la très sainte Trinité. Et pour ça, il faut être catholique. Et il faut aller notamment, faut aller surtout, même exclusivement, dans les chapelles dans Nounacum. Parce que dans les autres chapelles, ce n'est pas la foi catholique qui est professée. C'est dur à dire, c'est violent à entendre, j'en suis parfaitement désolé. Mon objectif, ce n'est pas de faire du mal ou de vexer les uns et les autres, mais c'est la vérité. Voilà. Donc je vous invite à aller sur le site catholique de France et vous trouverez la liste des chapelles dans Nounacum de France. Voilà. La liste n'est pas forcément exhaustive, mais il y a déjà un paquet. Donc renseignez-vous pour intégrer de véritables chapelles catholiques. Voilà. Et dans ces chapelles, chers amis, on ne bénit pas les couples homosexuels. Et on n'appartient pas à l'Église qui bénit les couples homosexuels. Parce que je sais très bien que ce que vont dire les féministes. Ah, mais chez nous, on ne les bénit pas, les couples homosexuels. Ok, vous ne les bénissez pas. Mais vous appartenez à une Église et vous êtes unacum, c'est-à-dire en communion avec une Église qui, elle, le fait. Donc vous devez assumer ce que fait votre Église, qui n'est pas la nôtre. Assumez. Voilà. Assumez. Pierre Tirmont, nous allons attaquer l'affaire Sarkozy. Donc, chers amis, vous n'êtes pas censés ignorer que Sarkozy a été condamné à 5 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs. Nous allons analyser ce jugement, extrêmement long, qui fait 380 pages. Et nous allons voir que Sarkozy a été constitué alors que l'infraction par laquelle il est, enfin, l'infraction au titre duquel il est condamné n'est pas constitué, donc il a été condamné en l'absence de preuves, et nous allons voir aussi qu'il y a une erreur de droit, vraisemblablement. Je pense que si Sarkozy fait appel, il a de bonnes chances de gagner, et je ne vois pas comment devant la Cour de cassation, si pas la Cour d'appel devait adopter la même argumentation, je ne vois pas comment il n'y aura pas de cassation, très sincèrement. Mais en premier lieu, faisons un petit rappel. Je n'ai aucune sympathie pour Nicolas, sympathie politique, j'entends par là, pour Nicolas Sarkozy, qui, à l'instar des autres présidents de la Troisième République, a travaillé à la destruction de la France. Comment les présidents de la République, à partir de Giscard, ont-ils travaillé à la destruction de la France ? Par plusieurs leviers, mais notamment par celui que j'appelle la mâchoire infernale. Qu'est-ce que c'est la mâchoire infernale ? D'un côté, on extermine un maximum d'enfants français dans le ventre de leur mère. En 2024, chiffre officiel, 250 000. 250 000 Français qui ont fini à la poubelle, chers amis. Je rappelle que la bataille de Verdun avait fait 163 000 morts. Donc ça veut dire que l'avortement en 2024, c'est 50% de plus de morts de plus que la bataille de Verdun. Il faut rappeler que l'avortement est un assassinat. C'est un péché mortel et ça prive de la vision béatifique les enfants avortés. C'est une monstruosité. Je l'ai dit, je le répète, je le répéterai. Le fait que l'avortement soit non seulement légalisé, mais promu par notre société, prouve que nous vivons dans une société barbare qui repose sur le cri silencieux de ces millions d'innocents qui, depuis des décennies, ont fini à la poubelle. Voilà. Nous vivons dans une société barbare. Donc, premier élément de cette mâchoire, le génocide prénatal. Et le deuxième, vous me voyez venir, immigration massive d'un maximum de populations, si possible, qui n'ont aucune affinité culturelle et spirituelle avec la France. Et à quoi aboutit-on ? À la disparition du peuple français sur son propre sol. Autrement dit, à l'afro-islamisation de la France. Si j'avais Nicolas Sarkozy face à moi, je le dirais ceci. Monsieur le Président de la République, pourquoi avez-vous œuvré à l'afro-islamisation de la France ? Pourquoi ? Quel était l'objectif ? On en reparlera, chers amis. Nicolas Sarkozy, par ailleurs, a défendu absolument tous les fondamentaux du système. Les droits de l'homme, la laïcité, l'avortement, les constructions supranationales, l'immigration de masse. Je rappelle que Sarkozy a fait exploser l'immigration légale. L'immigration légale sous Sarkozy était plus de deux fois supérieure à ce qu'elle était sous Lionel Jospin. Il y a eu une très forte augmentation de l'immigration légale sous Nicolas Sarkozy. Donc, immigration de masse, propagande homosexuelle. Je rappelle que la théorie du genre a été introduite dans les manuels scolaires par M. Luc Chatel, ministre de l'Éducation nationale de Nicolas Sarkozy. Et enfin, métissage forcé. Si deux personnes veulent se métisser, c'est leur problème, c'est leur affaire, si je puis dire. C'est leur vie privée. Mais les institutions n'ont pas à forcer les gens de se métisser. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Donc je rappelle les propos de Sarkozy. Vous allez sur YouTube, vous tapez Sarkozy métissage. C'est un discours qu'il a fait, je crois, de mémoire, le 17 décembre 2008. C'est un grand classique, hélas. Et il dit notamment ceci. Permettez un petit instant. On va retrouver ça. Si le volontarisme républicain au sujet du métissage, si le volontarisme républicain ne fonctionnait pas, donc ça veut dire que le volontarisme républicain conduit au métissage, en passant, il faudra alors que la République passe par des méthodes plus contraignantes encore. Attendez, ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire qu'on va forcer des gens à se métisser alors qu'ils ne le veulent pas ? C'est complètement fou. Ça n'a aucun sens. Bon. Donc on le voit, chers amis, Sarkozy était un homme de gauche. C'est-à-dire que Sarkozy passe pour, entre guillemets, un facho ou quelqu'un d'extrême droite auprès des gauchistes, alors que, en réalité, ils partagent tous les fondements de leur politique. Tous. La seule chose qui fait que Sarkozy passe pour un facho au jeu des gauchistes, c'est quelques déclarations qui n'ont été traduites, comme celle du Karcher, par exemple, qui n'ont été traduites par absolument aucun acte. Sarkozy n'a pas du tout essayé de mettre un terme, enfin, de réprimer les racailles. On l'aurait vu. On l'aurait vu, quand même. Bon. Bref, la responsabilité de Nicolas Sarkozy est d'autant plus grande qu'il a fait croire à une alternance de droite, à du Le Pen sans Le Pen. Il a été élu pour faire du Le Pen sans Le Pen. Et que fait-il une fois élu ? L'ouverture à gauche, en faisant rentrer notamment Bernard Kouchner au gouvernement. Et là, on peut penser que Sarkozy a été châtié par là où il a péché. Il n'a pas voulu dégauchiser la société, il n'a pas voulu dégauchiser l'État, alors que, je répète, il avait été élu pour ça, pour faire du Le Pen sans Le Pen. Bon, Le Pen Jean-Marie, hein, pas Marine, je précise. Hein. Parce que Marine Le Pen est encore plus à gauche que Nicolas Sarkozy. Beaucoup plus à gauche que Nicolas Sarkozy. Marine Le Pen qui nous a montré tout le sérieux de la politique en prenant courageusement position pour la climatisation dans les écoles pendant l'été, et en apportant un chat à un rendez-vous à Matignon. Voilà. Voilà ce que c'est la politique aujourd'hui. Bref. Donc Sarkozy a fait croire cette alternative de droite, cette alternance de droite, devrais-je dire plutôt. Et on se souvient qu'au deuxième tour de l'élection de 2007, il avait même dit qu'il fallait liquider mai 68. Bon. On ne l'a pas tellement vu. Bref, il a été châtié par là où il a pêché. Il n'a pas voulu dégauchiser. Résultat, qui a eu sa peau ? Des juges, dont on peut penser que certains sont de tendance de gauche, qui ont lancé toutes ces actions sous le mandat de François Hollande. Voilà. Ceci étant posé, après lecture du jugement, je ne me félicite pas de sa condamnation. Parce que, semble-t-il, il a été condamné pour des fautes qu'il n'avait pas commises. Quand l'Église ou le bon Dieu nous juge, il ne nous condamne pas pour les fautes que nous n'avons pas commises. Bon. Donc on ne condamne pas les gens pour les fautes qu'ils n'ont pas faites. Je dois avouer que je ne m'étais intéressé, dans un premier temps, que d'assez loin aux différents dossiers libyens, tout en omettant de me désoler de ce qui est arrivé à Sarkozy au regard de mon absence d'empathie pour lui. J'ai appris la décision de condamnation le jour du délibéré en regardant LCI. Et là, je vois les bandeaux en bas de l'écran et je vois relaxé pour la corruption, l'infraction de corruption, relaxé pour le financement illégal du parti politique et relaxé pour le détournement de fonds publics. Et pourtant, condamné pour association de malfaiteurs. Je ne suis pas avocat pénaliste, chers amis. Mais intuitivement, je sentais qu'il y avait un truc qui ne collait pas là. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allé voir la définition dans le code pénal de l'infraction de l'association de malfaiteurs. Et là, j'ai eu confirmation qu'il y a clairement un os dans le pâté. Très clairement. Et ma conviction a été définitive lorsque j'ai lu un article dans le JDD d'un de mes confrères beaucoup plus compétent que moi à la matière, puisqu'il est avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'État, qui s'appelle François-Henri Briard, dont je lirai un petit extrait de l'article tout à l'heure. Donc ce jugement, je vous l'ai dit, pose deux problèmes. Le premier, c'est qu'il repose sur une erreur de droit concernant Sarkozy. Et le deuxième, c'est que le tribunal reconnaît lui-même qu'il n'y a pas de preuve que l'argent libyen ait été injecté dans la campagne électorale. Donc le tribunal reconnaît lui-même qu'il n'y a pas de corps du délit, ce qui est quand même invraisemblable. On détaillera ça plus tard. Alors, Pierre Tirmon, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous mettre la pièce numéro 2 ? C'est l'article de mémoire 450-1 du Code pénal. Alors, si j'y dis des bêtises dans mes notes, vous me le dites. Hein. Qu'est-ce que c'est, chers amis, que l'association de malfaiteurs pour laquelle Sarkozy a été condamné ? Je précise une chose, c'est que le droit pénal est d'interprétation stricte, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une interprétation souple et malléable d'une infraction. Si nos actes ne cadrent pas avec la définition de l'infraction, on ne peut pas nous l'appliquer. Donc qu'est-ce que c'est une association de malfaiteurs ? Citation. On constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, donc préparation qui est caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, donc préparation d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits. Donc l'association de malfaiteurs, qu'est-ce que c'est ? C'est la préparation d'un crime ou d'un délit. Bon. Donc pour que association de malfaiteurs il y ait, il est nécessaire qu'il existe une infraction sous-jacente. Or, en l'espèce, Sarkozy a été relaxé de toutes les infractions sous-jacentes, et notamment la corruption. Pourtant, le tribunal statue ainsi, citation, au sujet de Sarkozy, on nous dit qu'il avait pour objectif de préparer une corruption au plus haut niveau possible lorsqu'il serait élu président de la République. Lorsqu'il serait élu président de la République. Donc ça veut dire que Sarkozy a été condamné pour la préparation d'une infraction qui est inexistante au moment des faits, mais qui aurait pu être possible une fois élu président de la République. Il a été condamné pour la préparation d'une infraction inexistante. C'est pas du tout ce que prévoit le code pénal. Là, on sort totalement de l'interprétation stricte de la loi. L'infraction d'association de malfaiteurs n'est pas constituée faute d'infraction sous-jacente retenue. Petit extrait de l'article que l'on trouve dans le JDD de mon confrère François-Henri Birard, avocat beaucoup plus compétent que votre serviteur. Il nous dit ceci. Même si l'infraction d'association de malfaiteurs est dite autonome et qu'il n'est pas exigé par la jurisprudence que le délit soit consommé, ça, par exemple, peut s'arrêter au niveau de la tentative. Quand il y a une tentative, c'est qu'on ne va pas au bout de l'infraction. L'erreur de droit est flagrante, injusticiable et lourdement condamnée pour avoir participé à la préparation d'infractions qui n'existent pas et qui ne pourront pas exister en l'état des constatations matérielles du jugement. Alors plus loin, bon, avec des petits accents républicains, hein. La France des droits de l'homme est trop grande. France des droits de l'homme, ça va pas ensemble, mais bref. Pour qu'il soit dit qu'elle est un pays où sont envoyés plusieurs années en prison des hauts responsables politiques sous le seul prétexte qu'il ne peut être exclu, ah ouais, ça on va rebondir là-dessus, c'est formidable, qu'il ne peut être exclu qu'ils aient préparé des actes non constitutifs d'infraction pénale. Donc je répète, l'association de malfaiteurs normalement est afférente à une autre infraction, et en l'occurrence cette infraction sous-jacente, eh ben, elle n'existe pas dans le dossier. Donc il y a une erreur de droit, me semble-t-il, assez manifeste. C'est pourquoi je pense que Sarkozy a des chances de gagner, si ce n'est en appel, en tout cas en cassation. Maintenant, chers amis, il nous faut examiner ces fameux actes préparatoires. Et là, on va aller dans le cœur du dossier. Il faut bien comprendre que l'affaire libyenne est un emboîtement de plusieurs affaires, telles des poupées russes. Et dans plusieurs affaires, d'ailleurs, Sarkozy n'intervient ni de près ni de loin. Je vais devoir vous présenter quatre personnages qui ont été condamnés dans cette affaire. Puis, entièrement, est-ce que vous êtes prêts à dégainer ? Le premier personnage s'appelle Alexandre Djouri. Personnage au parcours étonnant. Je pense qu'on pourrait faire un film de sa vie. Alexandre Djouri est né Ahmed Djouri dans une famille algérienne en 1959 en Seine-Saint-Denis. Mais il a fini par intégrer le monde des affaires, notamment en fréquentant Anthony Delon, et il a atteint les très hautes strates du monde des affaires. Il est devenu d'ailleurs un très proche de Dominique de Villepin. Alexandre Djouri a été condamné pour blanchiment dans le jugement dont nous allons parler, corruption active, association de malfaiteurs et trafic d'influence. Deuxième personnage, Pierre-Tirmont, Monsieur Bachir Salé. Bachir Salé était un haut fonctionnaire libyen qui, en 1998, est devenu le directeur de cabinet de Kadhafi. Et parallèlement à cela, il gérait le fonds souverain libyen qui s'appelle LAP. LAP. Il est condamné pour sa part pour corruption passive. Ensuite, messieurs Khalid et Ahmed Buxan. Khalid et Ahmed Buxan ne sont pas des Libyens. Directement, est-ce que vous avez les photos des deux intéressés ? Ce sont des grandes fortunes saoudiennes. Deux grandes fortunes saoudiennes qui vont être condamnées pour blanchiment et également association de malfaiteurs. Selon moi, leur rôle n'est pas aussi clair que cela aussi.
Dans cette affaire.
C'est Khalid et Ahmed Buxan. B-U-G-S-H-A-N. Voilà. Bon, c'est pas grave, vous ne prenez pas la tête. Alors là, il y en a un autre, donc un banquier qui est franco-djiboutien, qui s'appelle Monsieur Waïb Nasser, qui lui va être aussi condamné pour complicité de trafic d'influence et de blanchiment. Monsieur Waïb Nasser. Donc tout ça, ce sont des noms que la plupart d'entre vous, je suppose, ne connaissent pas et que moi-même, d'ailleurs, je ne connaissais pas avant de lire le jugement. Alors, avant d'arriver à l'affaire du pseudo-financement illégal de campagne et de l'association de malfaiteurs, il faut parler de trois autres affaires, chers amis. La première affaire, c'est la vente d'Airbus d'avion Airbus à la compagnie libyenne de la compagnie libyenne et donc la compagnie d'aviation libyenne. Et il semble que cette vente qui a eu lieu donc le 5 octobre 2006, vente dans laquelle on a préféré au Boeing des Airbus, ait eu lieu en faveur d'Airbus grâce à une intervention d'Alexandre Djouri, qui était un très proche de Bachir Salé. Bon. Et pour cela, EADS a versé sur un compte à Singapour à Alexandre Djouri la coquette somme de 2 millions d'euros. Néanmoins, Alexandre Djouri s'est senti lésé, puisqu'il estimait qu'il avait droit non pas à 2, mais à 15 millions d'euros, du moins, nous dit-on, dans le jugement. Retenez tout cela. Ensuite, de juin 2007 à juin 2008, Bachir Salé a passé 15 jours au Ritz. Qui a payé la note ? Non pas Alexandre Djouri, mais Germain Djouri, le fils d'Alexandre Djouri. Mais qui avait alimenté le compte en banque de Germain Djouri ? Monsieur Ahmed Buxan. À la lecture du dossier, moi j'ai tendance à penser qu'il n'est pas du tout sûr que l'intéressé savait ce qu'on faisait de son argent, de vous à moi. Mais ça, ce n'est que mon interprétation, elle n'engage que ma subjectivité. En tout état de cause, le parquet national financier soutient que le paiement des séjours de Bachir Salé au Ritz, qui s'élève donc à 60 000 euros, donc on découvre qu'en gros, en substance, c'est 4 000 balles la soirée au Ritz, le PDF pardon, nous dit que ceci serait la contrepartie de la signature de la vente des Airbus. Pour moi, ça ne tient pas la route. Pourquoi ? Premièrement, 60 000 euros, c'est de l'argent de poche pour Bachir Salé. Premièrement. Deuxièmement, si l'enjeu, c'est 15 millions d'euros de commission, l'intéressé ne va pas se contenter de 60 000 euros. Il faut être sérieux. Donc s'il y avait une répartition du butin, on ne lui aurait pas lâché seulement 60 000 euros. Voilà. Deuxième affaire, la vente de la villa dite Nabila. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il y a une villa dite Nabila dans la commune de Mangin en France. Cette commune, qu'est-ce que je raconte moi ? Cette villa appartient officiellement à une société de mémoire hollandaise, je crois, qui s'appelle Aklal, A-K-L-A-L. Mais lit-on dans le jugement que le véritable propriétaire de la villa serait en réalité Alexandre Djouri. La villa, la valeur de la villa, est estimée à 1,8 million d'euros. Mais il y a un contentieux fiscal sur cette villa, puisque comme officiellement c'est une société étrangère qui la possède, elle aurait dû payer 3% de je ne sais quelle taxe. Bon. Ce qui n'a pas été le cas. Et donc il y a une lourde ardoise fiscale, et ça empêche la société Aklal ou Alexandre Djouri, comme vous voulez, de la vendre, nous dit-on dans le jugement. Néanmoins, cette maison va être vendue. À qui ? Au Fonds Souverain Libyen, LAP, géré par l'ami d'Alexandre Djouri qui s'appelle Bachir Salé. Et en avance de ces 10 millions, donc somme extrêmement surévaluée par rapport à la somme véritable de la villa, mais en avance de ces 10 millions, nous dit-on, Alexandre Djouri a touché 1,5 million sur son compte UBS, je crois. Attendez, bougez pas. Où est-ce que c'est ça ? Ouais, c'est ça, sur son compte UBS, il est crédité de 1,5 million d'euros. Par qui ? Réponse, par Khalid et Ahmed Buxan, les grandes fortunes saoudiennes. Voilà. Donc, étonnante affaire. Poursuivons. Troisième affaire, la plus accablante selon moi, et là je crois que Claude Guéant, même en appel, va avoir des difficultés, je pense. Donc c'est l'affaire des 500 000 euros touchés par Claude Guéant. L'enquête nous apprend que Claude Guéant a touché 500 000 euros le 26 février 2008, au moment où il compte s'acheter un appartement, je crois, de mémoire, rue Weber à Paris. Donc, dans un premier temps, il voulait prendre un crédit pour ça, mais il renonce au crédit parce que 500 000 euros sont crédités, sont débités sur son compte. Comment Claude Guéant explique-t-il ce virement de 500 000 euros ? Il nous dit que c'est parce qu'il aurait vendu deux tableaux d'un peintre hollandais à un homme d'affaires malaisien via un cabinet d'avocats malaisien, dont je vous épargne le nom. Le tribunal nous dit que les circonstances dans lesquelles Claude Guéant prétend avoir rencontré l'acheteur sont invraisemblables. Très franchement, je le pense aussi. Ça ne paraît pas du tout carré. Claude Guéant a été l'objet d'une rectification fiscale parce qu'il a paru au service des impôts que la somme perçue était très largement disproportionnée. C'est-à-dire que les deux tableaux, s'ils ont vraiment été vendus, avaient une valeur en dessous de 100 000 euros. Or, je rappelle que Claude Guéant a perçu à ce titre 500 000 euros. Les services fiscaux ont remarqué que Claude Guéant, au moment où le tableau est censé avoir été vendu, n'a déclenché aucune formalité douanière pour l'expédier, pour l'exporter si vous préférez. Donc comment les choses ont-elles été faites ? Et on remarque que ces œuvres qui auraient dû être achetées par un homme d'affaires malaisien, en réalité sont restées dans le cabinet d'avocats. C'est le cabinet d'avocats malaisien qui a versé le 26 février 2008 les 500 000 euros. Mais qui, chers amis, avait au préalable versé 500 000 euros au cabinet d'avocats malaisien ? Vous devinez au pire de tirement ou pas ? Réponse, Khalid Buxan. Mais encore une fois, moi je pense qu'il n'est pas du tout clair que l'intéressé savait ce qui était vraiment fait de son argent. Donc cet argent d'une grande fortune saoudienne passe dans un cabinet d'avocats malaisien, et le cabinet d'avocats malaisien vire les sommes sur le compte de Claude Guéant. Ceci étant posé, chers amis, alors attendez, est-ce que j'ai une petite citation à vous faire ? Ceci étant posé, pourquoi a-t-on versé 500 000 euros à Claude Guéant selon le jugement ? Pour deux raisons. La première, c'est pour qu'il intervienne auprès des cadres de ADS pour leur rappeler qu'ils doivent 12 ou 13 millions à Alexandre Djoury. Et la deuxième, c'était pour qu'il intervienne en faveur d'Alexandre Djoury au sujet du contentieux fiscal qui est lié à la villa dite Nabila. Donc on peut lire notamment ceci. C'est en retour de cette somme qu'il a accompli un acte, facilité sa fonction, etc., en sollicitant Marwan Laoud à la demande d'Alexandre Djoury pour qu'il honore ses engagements qu'il aurait pris à son égard. Est-ce que j'étais clair périodiquement sur l'affaire Guéant ? Vous observerez, chers amis, que pour l'instant, le nom de Sarkozy n'apparaît pas. Voilà. Donc, je vous avoue que le dossier de Claude Guéant ne me paraît pas très facile à plaider. Pour être tout à fait franc. Pas très facile du tout à plaider. Donc, nous arrivons maintenant à la question de l'infraction du financement illégal de la campagne électorale et de la dite association de malfaiteurs. Alors, les premières accusations en cette matière ont été faites par Mediapart le 28 avril 2012, en pleine campagne de l'entre-deux-tours présidentiel. En pleine campagne. Mediapart a alors publié un document qui a été présenté comme un document issu des archives des services secrets libyens, signé par son chef, à l'époque, Monsieur Moussa Koussa. Et ce document évoquait le paiement à l'équipe de Sarkozy de la somme de 50 millions d'euros. 50 millions d'euros. Il s'avère, chers amis, que ce document, et le tribunal le reconnaît, ce document était un grossier faux. On se croirait dans l'affaire Dreyfus. Moussa Koussa, qui a été interrogé en 2014, d'ailleurs, a dit que ce n'était pas sa signature et son écriture, sur, enfin sa signature en tout cas, sur le document. On relevait notamment ceci, hein. D'autres témoins notaient la mauvaise qualité des entêtes, l'absence de précision sur le titre de directeur de renseignement, intérieur ou extérieur, l'absence de mention du lieu ou de la réunion, des erreurs d'orthographe, etc. etc., etc. On ne pouvait conclure, il ne pouvait pas conclure sur la signature de Moussa Koussa. Donc ce document était un faux grossier, chers amis. Question ? Est-ce que Mediapart a fait son mea culpa pour avoir tenté d'influencer une élection en se reposant sur un faux grossier ? J'attends toujours le mea culpa de ces champions de la déontologie journalistique. Donc concernant ces deux infractions, financement illégal de la campagne et l'association de malfaiteurs, j'observe plusieurs choses. Premièrement, les pièces versées au débat ont une authenticité qui est très hautement douteuse. Deuxièmement, les faits sur lesquels le tribunal s'appuie ne sont absolument pas éclairants et absolument pas probants. Ils servent à faire des suppositions, mais aucunement des démonstrations. Troisièmement, les témoins qui accablent la défense sont très loin d'être des témoins impartiaux. Ils sont jugés partis et ils ont des CV plutôt gratinés. Monsieur, je parle d'un terroriste, en tout cas condamné comme tel par la France, M. Abdallah Senoussi, et de M. Ziad Takieddine. Que nous dit le tribunal au sujet de Ziad Takieddine ? Vous allez voir ce qu'il pense de la crédibilité des propos de l'intéressé. Citation. Nombre de ces déclarations se sont avérées mensongères. Le tribunal rappelle que dans le cadre du dossier Karachi, sa condamnation porte entre autres sur des faits de faux témoignages d'une gravité certaine puisqu'il s'agit de déclarations mensongères faites devant un magistrat instructeur chargé du dossier de l'attentat perpétré le 8 mai 2002 à Karachi. Donc le tribunal lui-même reconnaît que Ziad Takieddine, qui est mort je crois d'ailleurs deux jours avant la décision finale, que Ziad Takieddine, ou avant le début du procès je ne sais plus, est un témoin extrêmement peu digne de foi. Voilà. Et quatrièmement, comme nous allons le voir, le tribunal reconnaît à plusieurs reprises qu'il est incapable de prouver que de l'argent libyen a été injecté dans la campagne électorale française. C'est énorme, chers amis. C'est comme si quelqu'un se faisait condamner par exemple, assassinat, je fais une analogie, mais qu'on n'était même pas sûr qu'une personne se soit fait tuer. Ça n'a aucun sens. C'est comme si quelqu'un est condamné pour préparation, pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un assassinat, et personne n'a été assassiné, et il n'y a même pas eu de tentative. Bon. On va développer tout ça. Alors d'abord, quelle est la pièce matériellement vérifiable qui est censée accabler Nicolas Sarkozy ? Ce sont des pages d'un carnet. Je ne dis pas un carnet. Je dis ce sont des pages d'un carnet communiqué de mémoire par la justice norvégienne. Ce carnet a été écrit par M. Shoukri Ghanem, qui a été pendant de nombreuses années ministre du pétrole, jusqu'à l'insurrection qui a eu début 2011. Et Shoukri Ghanem avait quitté la Libye au moment du début de l'insurrection. Il avait pris le parti de l'insurrection. Donc Shoukri Ghanem, semble-t-il, tenait un carnet. Mais ce carnet, ou les pages qui sont versées au débat, chers amis, sont-elles authentiques ? Ben, y a des raisons d'en douter. Il y a des raisons d'en douter. Premièrement, ce sont des pages isolées. Ce n'est pas le carnet en entier. C'est quand même assez gênant. Deuxièmement, et là c'est encore plus troublant, c'est qu'on apprend qu'il y avait des brouillons. Mais attendez, quand on tient un carnet, pourquoi on fait un brouillon ? Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Et ensuite, on n'a eu aucune preuve sérieuse du fait que c'était son écriture dessus. Que nous dit le tribunal ? Pour donner une valeur probante à ce document, que nous dit le tribunal. Ah, il y a un de ses amis qui a reconnu son écriture. C'est pas sérieux. C'est pas comme ça qu'on établit qu'une écriture appartient à une personne. Il faut faire une étude graphologique. Il faut demander aux proches, à la femme, aux fils, aux filles, aux frères, aux sœurs, qui connaissent très bien l'intéressé, si c'est son écriture, un ami. Et d'ailleurs, qui est l'ami ? Le tribunal ne nous le dit même pas. C'est ça une pièce accablante ? Pour moi, ça, c'est du Esterhazy. Voilà. Je le dis très vraiment, c'est du Esterhazy pour moi, ça. Bon. Alors, rappelez-vous, un faux avait été attribué à M. Moussa Koussa. Et Moussa Koussa avait dit, ce document, c'est pas moi qui l'ai écrit. et je rappelle toutes les autres preuves d'inauthenticité de la pièce. On aurait pu demander à Monsieur Shukriganem, mais au fait, Monsieur Shukriganem, ces documents-là, ces pages, c'est vous qui les avez écrites ou pas ? À votre avis, Pierre de Termont, qu'a répondu Monsieur Shukriganem ? Eh bien, Monsieur Shukriganem n'a rien répondu. Pourquoi ? Parce qu'hélas, on l'a retrouvé en train de flotter à Vienne, dans les eaux du Danube. Et qu'est-ce qui est troublant là-dedans, chers amis ? Alors, bon, sans doute, il avait dû glisser sur une peau de banane, et comme il ne savait pas nager, bah, il s'est noyé. Et puis, comme Vienne, c'est une ville où il y a très peu de densité urbaine, bien entendu, personne n'a entendu quand il a fait plouf. Bon, voilà. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus troublant, chers amis, là-dedans ? C'est le jour où on le retrouve, ce cadavre. Le 29 avril 2012. Attendez, c'est dingue, ça. Le 28 avril 2012, Mediapart publie un faux. Et le 29 avril 2012, une personne qui est capable de nous dire si un document est vrai ou faux se fait liquider. Écoutez, si c'est une coïncidence, elle est sacrément troublante quand même. Hein. Elle est sacrément troublante. Et je ne suis pas convaincu que le PNF a beaucoup creusé dans ce sens-là ses investigations. Bon. Donc, je le répète, l'élément matériellement vérifiable le plus accablant officiellement contre Sarkozy, ce sont les pages de ce carnet, et très franchement, leur authenticité est extrêmement douteuse. Parce que dans ce carnet, donc Shukriganem dit qu'on a donné de l'argent à Sarkozy. Petite parenthèse, admettons que le document soit authentique, c'est pas parce qu'il l'écrit que c'est vrai. Si j'écris un carnet dans lequel je dis on a donné 5 millions à Pierre de Tiremont, ça veut pas dire qu'on a donné 5 millions à Pierre de Tiremont. Hein ? Bon. Donc poursuivons. Quels sont les faits qui sont reprochés à Brice Hortefeux et à Claude Guéant et qu'on a reproché à Sarkozy d'avoir laissé se dérouler ? Bon. Ce sont des voyages que les intéressés ont faits en Libye dans le cadre officiel de leur fonction auprès du ministère de l'Intérieur. Claude Guéant est allé en Libye officiellement du 30 septembre au 1er octobre 2005. Et Brice Hortefeux, le 21 décembre 2005. Et en marge du protocole officiel, mais ceci étant dit, c'est une faute de leur part, hein, indépendamment de ce qui s'y est dit, ils ont rencontré M. Abdallah Sinoussi, condamné par la France à perpétuité pour terrorisme. Bon. Taki Eddine, qui était censé être là, et je précise une chose sur Taki Eddine, c'est que Taki Eddine travaillait pour la Libye. Hein. Il travaillait pour la Libye. Pour des contrats, etc. Bon. Donc Taki Eddine, qui était censé être là, et Abdallah Sinoussi ont dit que lors de ces rendez-vous ont été évoqués le financement illégal de la campagne de Sarkozy. Mais que vaut leur parole, chers amis ? Vous voulez que je vous répète ce que le juge lui-même dit de Taki Eddine ? Citation. Nombre de ces déclarations se sont avérées mensongères. Le tribunal rappelle que dans le dossier de Karachi, sa condamnation porte entre autres sur des faits de faux témoignages d'une gravité certaine, puisqu'il s'agit de déclarations mensongères faites devant un magistrat instructeur chargé du dossier de l'attentat perpétré le 8 mai 2002 à Karachi. C'est pas un témoignage deux fois. Soyons sérieux, 3 secondes et demie. Taki Eddine raconte qu'il a amené 5 millions d'euros en cash plusieurs fois au ministère de l'Intérieur dans une valise. Il raconte qu'il rentre au ministère de l'Intérieur avec une valise pleine de cash. Mais est-ce que vous croyez un truc aussi fantaisiste ? Même le tribunal ne le retient pas. Sa parole ne vaut rien dans ce dossier. Bon. Quant à Abdallah Sinoussi, d'ailleurs, tant Taki Eddine que Sinoussi sont jugés partis, hein, en passant. Bon. Quant à Sinoussi, il accable Brice Hortefeux. Et il dit, il m'a remis un RIB le 21 décembre 2005. Non mais, soyons sérieux, 3 secondes, chers amis. Est-ce que vous croyez franchement que s'il y a une magouille de cet ordre, des personnes de ce niveau se rencontrent pour se filer un RIB à main nue ? Mais c'est pas sérieux, franchement. Et c'est d'autant moins sérieux que Abdallah Sinoussi est revenu sur ses dires et qu'il a soutenu « Ah mais non, mais c'est pas le 21 décembre que M. Brice m'a donné le RIB, c'est lors du sommet Union européenne-Afrique de novembre 2006. » Sauf que, petit problème, Brice Hortefeux n'était pas présent à cet événement. Donc, Abdallah Sinoussi, vous voyez, se prend les pieds dans le tapis. Et on voit que lui non plus n'est pas un témoin digne de foi. Donc, je pense que Claude Guéant et Brice Hortefeux ont commis une faute en rencontrant Sinoussi. Et semble-t-il, a été évoqué le fait de la situation judiciaire de Senoussi, parce que Senoussi, j'ai oublié de vous le dire, était le beau-frère de Kadhafi, et Kadhafi voulait, en gros, qu'il n'y ait plus de problème d'ordre judiciaire. Quoi. Voilà. Et il semblerait que ce soit ce sujet-là qui était abordé avec Claude Guéant et Brice Hortefeux. Mais à cette heure, absolument rien ne prouve qu'entre ces hommes ait été évoqué le financement de la campagne de Sarkozy. Et très franchement, les discours de Takieddine et de Senoussi sont invraisemblables sur la question. Invraisemblables. Donc je ne reviens pas sur la farce de Takieddine concernant les mallettes données à portée Place Beauvau en passant par le portique. Enfin, c'est impensable. Impensable. Et maintenant, j'en arrive à la question du fait que aucune preuve n'a été trouvée par le parquet national financier, aucune preuve n'a été faite que de l'argent libyen a été injecté dans la campagne française. C'est quand même le fond du problème, chers amis. Bon. Donc que nous dit le tribunal à ce sujet? Il nous dit qu'il y a eu trois canaux de financement. Le premier canal a eu lieu le 30 janvier 2006. Que s'est-il passé le 30 janvier 2006? C'est le trésor public libyen, donc c'est officiel, donc il ne se cache pas. Hein. Le trésor public libyen fait un virement de 3 millions d'euros, je crois, de mémoire. Je vérifie, pour ne pas dire de bêtises. C'est ça, 3 millions d'euros sur le compte d'une société qui appartient à Takieddine et qui a un compte à la banque IBL, qui est une banque libanaise. Donc, le trésor public libyen. Et je rappelle que Takieddine travaillait en tant qu'intermédiaire pour la Libye. Donc c'est normal qu'il touche de l'argent à la Libye en passant. Donc on verse 3 millions d'euros à une société de Takieddine qui est au Liban. D'accord ? Bon. Que se passe-t-il ensuite ? Trois jours plus tard, le 2 février 2006, Takieddine fait un virement de cette société sur un trust qui s'appelle Cactus, qui est au Panama, et qui appartient à M. Thierry Gobert, qui a très bien connu Sarkozy dans les années 90, mais avec qui il n'a plus de lien depuis très longtemps, outre des liens institutionnels. Bon. Et que fait Thierry Gobert, chers amis? Il va retirer du cash, sur de la liquidité, faut-il dire, sur ce trust. Mais question, qu'est-ce qui nous dit que c'est l'argent libyen? Parce qu'il y avait d'autres fonds sur le compte de la société Rothschild. Et soyons sérieux, chers amis, quels sont les virements qui ont été faits par Thierry Gobert sur ce trust? C'est très intéressant. Et je trouve que le tribunal ne s'est pas assez attardé là-dessus. Attendez, où est-ce que j'ai mis ça? Bougez pas 5 secondes. Voilà. Donc, quels sont les virements, quels sont les retraits d'espèces qui ont été faits aux Bahamas, hein? Bon. En 2005, donc avant que Takieddine fasse un virement qui n'a eu lieu que le 2 février 2006, Thierry Gobert avait retiré 80 000 euros. Avant le virement. Donc on voit bien que ce n'était pas l'argent de Takieddine qui l'a tiré. Bon, mais poursuivons. En 2006, il retire 80 000 euros. En 2007, il retire 30 000 euros et 58 000 dollars. Parce que bah, là, on se dit, bah, ça va s'arrêter là, les élections sont terminées. Donc il va arrêter de retirer du cash. Bah non, il continue. En 2008, il retire 100 000 euros. Et en 2009, 90 000 euros. Si c'était de l'argent destiné à financer la campagne, chers amis, comment se fait-il que Thierry Gobert a commencé à retirer de l'argent avant que Takieddine reçoive les sous des Libyens? Et pourquoi, plusieurs années après les élections, a-t-il continué à retirer de l'argent? Rien qui prouve que c'est l'argent libyen, chers amis. Rien du tout. La seule chose qui est prouvée, c'est que Thierry Gobert a retiré du cash, des liquidités, excusez-moi. Mais admettons que ce soit l'argent libyen. Admettons. Pour les besoins de la démonstration. Qu'est-ce qui prouve que cet argent qui a été retiré en liquidité donc aux Bahamas et traversé les océans pour finir en France? Zéro preuve. Zéro. On va y revenir puisque le tribunal le reconnaît. Ensuite, Takieddine a fait trois virements du 26 juillet au 10 janvier 2007, de la société Rothschild, donc qui est la Banque internationale du Liban, IBL, vers une de ses sociétés qui est en Suisse et qui s'appelle de mémoire Globs. Et là, il fait un virement de 600 000 euros. Le tribunal reconnaît lui-même que Takieddine s'est servi d'une partie de cet argent pour ses besoins personnels. Et là, Takedine va effectivement faire des retraits. Il va retirer pour 600 000 euros de liquidité, ce qui va d'ailleurs inquiéter la banque suisse. Mes chers amis, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui nous prouve que cet argent a été injecté dans le financement de la campagne de Sarkozy ? Rien. Il n'y a pas de preuve. C'est pas parce qu'un individu tire de l'argent, à moins de le postuler, que cet argent finit dans le financement illégal. Les tenants de la position du jugement postulent ce qu'ils doivent démontrer. À ce moment-là, c'est un peu facile. Hein. Bon. Poursuivons. Le 24 novembre 2006, Rosfield va recevoir 2 millions d'euros, mais de qui cette fois-ci ? Des services secrets libyens, nous dit-on. Voilà. Qu'est-il fait de cet argent ? On ne nous le dit pas. Et le tribunal poursuit en disant que le 28 novembre, eh bien, UBS, sur le compte UBS d'Alexandre Djoury, 1,5 million d'euros ont été reçus. Oui, mais il n'a pas reçu ça des Libyens. Il a reçu ça, dans un premier temps, d'une fortune saoudienne. Bon. Après, il est vrai qu'il avait perçu, enfin que ça, la société Aklal avait perçu au total 10 millions d'euros. Bon. Bref, chers amis, qu'est-ce que le parti, qu'est-ce que je raconte moi, qu'est-ce que le parquet national financier a démontré ? Il a démontré que M. Thierry Gobert, effectivement, avait retiré des liquidités de son trust, c'est une citation, trust qui avait été alimenté par des virements de Takedine. Et au regard de la fongibilité des capitaux, rien ne prouve que c'est l'argent libyen. Et le parquet national financier n'a pas réussi à démontrer que cet argent retiré en liquidité a traversé les océans pour finir en France. Voilà. Ensuite, le parquet financier a démontré que Takedine avait viré des sommes de Rosfield vers sa société Globes, qui est en Suisse. Il a démontré que Takedine avait retiré en liquidité 600 000 euros, mais il n'a pas démontré que ces 600 000 euros ont été injectés dans la campagne. À aucun moment. Aucun moment. Voilà. Que voulais-je dire d'autre à ce sujet ? Il me semble que j'oublie quelque chose. Bon, nous allons voir maintenant comment le tribunal et le parquet ont parlé de tout ça. Je voulais revenir sur le... il a été aussi évoqué les sous qui ont été versés, donc les 10 millions d'euros, au sujet de la villa dite Nabila. Mais encore une fois, rien ne prouve que ces sous ont fini dans la campagne. Oui, voilà, c'est ça que j'avais oublié principalement. A-t-on retrouvé, chers amis, dans toutes ces investigations, des paiements en liquide qui établiraient donc que des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros en liquidité, ont été versés aux différents acteurs qui ont animé la campagne électorale de Sarkozy. Qu'est-ce que le parquet a trouvé ? Il a trouvé qu'avait été payé en liquidité aux collaborateurs de l'UMP 35 000 euros en liquide. 35 000. Et peut-être aussi quelques dizaines de milliers d'euros de remboursement de frais. C'est ça le financement illégal ultra-mafieux ou je sais pas quoi qui vient de Libye, franchement ? Sérieusement ? La montagne a accouché d'une souris. Pierre-Tirmont, s'il vous plaît. Pièce numéro 3. Voyons comment le tribunal... Et moi, je vous dis, ça m'a un petit peu choqué, hein, comment il parle de tout ça. Hein. Donc, le tribunal évoque le fonctionnement des multiples comptes de Takedine, lequel est bénéficiaire de plusieurs sociétés, il parle des flux croisés. Il y a lieu de souligner que certains comptes n'ont pas été communiqués et d'autres ont été découverts trop tardivement, et donc... tous les flux n'ont pu être mis à jour. Et cette phrase, moi, m'a fait halluciner, parce que ça, c'est du Fouquet. Hein. C'est du Fouquet-Tinville, ça. Ne pas parvenir à tracer la destination finale de l'argent ne signifie pas qu'il ne soit pas arrivé à son destinataire. Ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, je ne peux pas le prouver, mais comme c'est pas impossible que j'ai raison, c'est vrai. Et là, on peut condamner n'importe qui pour n'importe quoi, comme ça. Je répète, ne pas parvenir à tracer la destination finale de l'argent ne signifie pas qu'il ne soit pas arrivé à son destinataire. Bon. Autre exemple, il ne peut donc être exclu à ce stade que les sommes parvenues sur le compte Rosfield à IBL soient le fruit d'un pacte corruptif. Il ne peut donc être exclu. Mais il ne s'agit pas de ne pas l'exclure, il s'agit de le démontrer. Et la charge de la preuve appartient à l'accusation. C'est démontré ou c'est pas démontré ? Si on est condamné pour ce qui ne peut pas être exclu, c'est compliqué. Hein. Autre exemple, hein, au sujet d'un autre élément du dossier, si cet élément à lui seul ne démontre pas l'arrivée d'argent dans la campagne, il ne permet pas de l'exclure. Mais c'est bien gentil, mais ça le prouve ou ça le prouve pas ? Bon. Il s'agit, ensuite plus loin, il s'agit d'un autre fait qui ne démontre pas d'arrivée d'argent, mais ne permet pas non plus de l'exclure au regard de sa temporalité. Mais encore une fois, on ne vous demande pas de ne pas l'exclure, on vous demande de le démontrer, si ce n'est pas trop demandé. Bon. Autre extrait. Il résulte de ce qui précède que, à ce stade, la procédure ne permet pas de fonder une démonstration que l'argent parti de Libye, quel que soit le canal, serait in fine arrivé dans la campagne. Mais ça, c'est énorme, chers amis. C'est énorme. Vous vous rendez compte de ce qu'ils disent, là ? Je répète. Hein. Il résulte de ce qui précède que, à ce stade, la procédure ne permet pas de fonder une démonstration que l'argent parti de Libye, quel que soit le canal, serait in fine arrivé dans la campagne. Le tribunal observe que la temporalité est compatible. Non, mais attendez, ça c'est bidon, ça. C'est prouvé ou c'est pas prouvé ? On ne vous demande pas de savoir si on ne peut pas l'exclure. On ne vous demande pas si la temporalité est compatible. On vous demande s'il est prouvé que l'argent libyen a été injecté dans la campagne. Eh bah, bien, la réponse est non. Il est possible que les primes distribuées soient d'un volume plus important, sans toutefois que le tribunal puisse aller au-delà des 30-35 000 euros admis par Vincent Alvas et Eric Voers. Il est donc impossible d'établir avec certitude que plus de 35 000 euros en espèces ont été circulés dans la campagne. Impossible d'établir plus de 35 000 euros. Une partie des sommes reçues sur le compte Rosfield à l'International Bank of Lebanon a été transférée vers le compte suisse de la société Globs, puis retirée en espèces. Une autre partie vers le compte du trust Cactus, ce qui a permis à Thierry Gobert d'opérer des retraits de liquidités et de virements. Au vu des développements précédents, ça c'est plus loin, malgré des flux financiers mis à jour, le tribunal n'est pas en mesure de démontrer de manière indubitable que cette somme provenait de fonds libyens, ni qu'il y aurait eu un volume d'espèces supérieur à 35 000 euros. Mais attendez, c'est énorme ça, chers amis. Ils nous disent qu'il n'y a aucune preuve du financement illégal de la campagne. Ils disent qu'il n'y a pas d'infraction. Ben, s'il n'y a pas d'infraction, on ne peut pas condamner une personne à avoir préparé une infraction qui n'existe pas. Voilà. Et pour lequel il n'y a pas eu de tentative. Voilà. Alors, que nous révèle ce jugement ? Le fond des choses, et ce qui est le plus important pour moi et qui résonne avec l'actualité d'aujourd'hui, qui est la démission de Sébastien... c'est Sébastien son prénom, Lecornu ? Bon. C'est un personnage qui ne va pas tellement marquer, je vous avoue. Hein. C'est que la Ve République est une République divisée contre elle-même et je pense qu'elle n'en a plus pour très longtemps, chers amis. Je pense qu'en 2028, il va se passer des choses très intéressantes. La douille de la pseudo-droite, des modérés qui critiquent les causes sans jamais remettre en cause, qui critiquent pardon, les effets sans jamais remettre en cause les causes, pardon pour la répétition, était un des piliers de la Ve République. Si ce pilier s'effondre, s'il se décrédibilise, c'est un grand affaiblissement du régime. Et on le voit, cet affaiblissement, avec l'affaire Lecornu, qui n'est même plus capable de faire un gouvernement. La 5e République, qui se vantait à juste titre d'avoir apporté de la stabilité aux institutions, aujourd'hui, est revenue à la situation qu'on trouvait sous la 3e et 4e République. Je vous dis, la 5e République est au bord du précipice, chers amis. Voilà la conclusion. Sur le fond, je vous dis très franchement, je pense que si Sarkozy fait appel et a fortiori s'il va en cassation, je pense qu'il gagnera. Voilà. Ceci étant posé, il a été victime, selon moi, là, d'une erreur judiciaire, mais ça ne retire rien à son passif politique. Et Sarkozy a joué un rôle terrible, 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 dans la destruction de la France. Et je ne me prononce pas, disant cela, sur ses autres affaires judiciaires, je vous avoue que je n'ai pas creusé le dossier. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, Pierre Thiermont, éventuellement ?
Je ne note pas de questions.
Bon, ben, on ne va pas faire de zèle. Donc, chers amis, n'oubliez pas que la finalité de ces émissions, c'est de faire de vous des vrais Français. Des Français catholiques, des Français contre-révolutionnaires. Hein. Le but de la vie, je vous l'ai dit, c'est de vivre et mourir en état de grâce. Donc, il faut que vous rejoigniez des vraies chapelles catholiques et il faut que vous soyez mus par les véritables principes. On ne sortira pas de la France de là où elle est tant que la société et les institutions reposeront sur les faux principes dont Sarkozy a été un des défenseurs et dont l'entre guillemets droite, en tout cas l'UMP, devenu Les Républicains, est l'un des défenseurs. On ne restaurera pas une France véritable, une France catholique, si on continue de tuer chaque année près de 250 000 Français. Ça, c'est pas possible. On ne peut pas refaire la France si on ne refait pas la démographie française. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Bref, cette émission devait être faite. Alors, je voulais faire à la base une émission qui s'appelle « Défense des riches ». Riches, entre guillemets, parce que la démagogie gauchiste reprise par une partie du camp national et de la dissidence me sort par les oreilles. Et il faut qu'on parle de pognon sérieusement, chers amis. Il faut qu'on parle d'argent sérieusement. Voilà. Donc, je ferai une émission consacrée à cela. Je ne sais pas quand je la ferai, mais je ferai une émission qui s'appellera « Défense des riches », entre guillemets. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce que c'est un vrai riche ? C'est quelqu'un qui peut se permettre d'arrêter de bosser. Ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui peut se le permettre. Hein. Même quelqu'un qui gagne 10 000 balles par mois, bah, s'il arrête de bosser, son train de vie s'effondre. Il ne peut plus rembourser ses crédits, etc. Donc, les vrais riches ne sont pas si nombreux que ça. J'ai appris d'ailleurs qu'il y avait en France plus de millionnaires qu'en Allemagne. Nous avons en France 3,3 millions de millionnaires. Mais c'est un chiffre à relativiser puisque cette fortune est bien davantage liée à l'immobilier qu'à la fortune mobilière. Et le problème des Français, c'est que bon, on épargne beaucoup, mais notre économie est sous-capitalisée. Nos boîtes sont sous-capitalisées. J'aimerais que les Français se mettent à investir dans autre chose que l'immobilier. Ça serait pas mal, quoi. Voilà. Je précise également qu'il va y avoir le salon de la maison d'édition du Verbe Haut à la Librairie Française samedi prochain. Alors, j'ai pas les heures précises, mais voilà. Donc, salon de la maison d'édition du Verbe Haut, samedi 11 octobre, à la Librairie Française. Voilà. Je consacrerai, chers amis, ma prochaine émission à Prévost. Ça fait un moment que j'ai envie de la faire, donc je vais synthétiser ce qu'est son action. Et il semble qu'il va faire sa première pseudo-exhortation apostolique qui a été signée, enfin, qui va être publiée normalement le 9 octobre. Donc ça sera l'occasion, chers amis, peut-être d'analyser s'il y a du neuf. S'il n'y a pas de neuf, j'en parlerai pas spécialement, mais s'il y a du neuf, des nouvelles hérésies, je ferai l'analyse de ce torchon moderniste qui s'annonce, à savoir la première exhortation apostolique de Prévost, qui officiellement est infaillible, hein, je précise. Hein. Le magister ordinaire universel, sont infaillibles. En matière de foi et de mœurs, ce qui est imposé à l'adhésion de l'Église universelle est infaillible. Donc nous allons voir ce qu'est ce document, entre guillemets, infaillible de Prévost. J'en ai terminé, le combat continue et je vous dis à dans 2 semaines.